sciences de la vie.
Pensons croûte, croûte terrestre, écorce en surface, enveloppe de la terre sur laquelle évolue la flore, la faune, l'homme. Je m'égare, pas vraiment. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde.
Un morceau là avec la croûte.
Il faut faire bien attention, c'est propre de remettre de la viande sur les rebords de la croûte.
Ah là, tout est calme, on peut casser la croûte?
Oui chef.
Une croûte donc, un plat de voyage enveloppé dans cette pâte cuite, imprégnée des saveurs de ce qu'elle contient. La croûte, merveille de croustillant et de fondance, imprégnée des saveurs qu'elle capture et enveloppe. Une tourte pour préserver, une croûte pour raconter un lieu, un moment, un trésor garni. Fascinante, passionnante, délicieuse, accessible à tous, la croûte. Quel bonheur de travailler sur ce sujet. Oui, j'adore la croûte. Et notre invité aussi, je crois. Bonjour, Hugo Riboulet.
Bonjour.
Bienvenue ici.
Merci beaucoup.
Bienvenue à notre table.
Enchanté. Donc, c'est un vrai plaisir.
Plaisir partagé, manifestement, puisque vous venez de publier un livre qui s'occupe d'une de mes passions personnelles. Mais sortons de ce côté un peu perso-perso. Cuisinier, ardéchois, je crois, d'origine.
C'est ça.
Ancien second de Laurent Petit, 3 étoiles. Formé à la cachette auprès du chef Massa, vainqueur à la télé de Top Chef, la 14e édition, fondateur à Paris, avec votre ami et coéquipière, Alban Auvray de Groot, la tourte, les plats à emporter, street food chic, pas de burger, mais des tourtes style Pithiviers croustillant fondant.
C'est ça exactement. Ouais, on a décidé de monter ce projet donc autour d'un monument un petit peu de la gastronomie française.
Génial, qui est... Un petit peu.
Ouais. D'un monument de la gastronomie française. Voilà les tourtes. C'est vrai, les tourtes Pithiviers qu'on retrouve principalement dans des restaurants gastronomiques. Et on voulait rendre accessible ce mets à tout le monde, au plus grand nombre. Et dans ce format qui puisse se manger individuellement, à emporter, ou au comptoir, ou chez soi, réchauffé à la maison. Donc voilà, c'est à rendre ce mets qui est à de multiples facettes, que ce soit la pâte ou l'intérieur, ou la farce qu'elle renferme.
Tout en croûte, le livre qui paraît aux éditions Albin Michel. La question va vous sembler peut-être alambiquée, mais bon, je vous la pose. Qui vous a donné le goût de la croûte?
Le goût de la croûte, je pense qu'en fait, il m'est venu de mon ancien chef japonais, Masashi Jishi, à la cachette. Il m'a inculqué un petit peu cet univers des croûtes, notamment aussi sur l'univers de la culture gastronomique française. Car oui, il exécute des grands classiques japonais, mais aussi des grands classiques français. Il m'a formé sur certaines techniques, notamment sur celle des Pithiviers. C'était un de ses, ça allait toujours. Un de ces plats un peu phares en période de chasse où j'ai réalisé mes premières tourtes au pigeon, au foie gras, à la caille, au perdreau, avec toutes ces choses-là. C'est vrai que ça m'a toujours fasciné, le travail déjà de la pâte feuilletée, la technicité d'arriver à monter quelque chose en boule sous un dôme feuilleté, mais aussi, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette cuisson de la tourte. La cuisson, quand on va la cuire, on va la laisser reposer. Et tout le temps, je me demandais comment on arrive à ce qu'à l'intérieur, ce soit rosé sans qu'on puisse l'ouvrir.
Comment on sait?
Eh ben, on sait avec un thermomètre. Voilà, c'est quand même, à part chez Groot où on a développé certaines choses vu qu'on a l'habitude de cuire les tourtes, mais ça va être en fonction de la viande qu'il y a à l'intérieur, on sonde et on voit du coup la température qu'il y a et ça va être comme ça la pointe de cuisson qu'on va faire.
Alors on a été un peu sévère avec nos auditeurs et vous qui nous écoutez parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un pithivier. Mais vous l'avez très bien décrit, ouais. Le pithivier, donc on imagine comme un chapeau au melon fait de pâte, c'est une pâte qu'enveloppe et qu'enveloppe des strates.
Ouais.
Et c'est de la viande généralement?
Généralement, à l'origine c'est quand même de la viande, donc c'est un dôme de pâte feuilletée qui est garni à l'intérieur d'une farce tout autour, et au centre on va souvent retrouver donc un filet de volaille ou un filet de quelconque viande, souvent de chasse, et on peut rajouter aussi souvent des duxelles de champignons, une embourrée de choux, des choses comme ça pour agrémenter ce mets.
On met ce qu'on veut dedans ou...
on met ce qu'on veut, mais ça va dépendre en fait de l'humidité qu'il y a dans les produits qu'on va mettre à l'intérieur. C'est quelque chose de technique, on peut pas tout mettre. C'est vrai que des fois j'entends on peut tout mettre, non. C'est quand même quelque chose de technique. Il y a une pâte feuilletée qui est en dessous. Il faut pas qu'elle se détrempe. Il faut pas que ça fuit. C'est pas comme quand on a une tarte ou autre où on a un moule en support. Ici, on n'a pas de moule. La pâte, c'est le moule. La pâte, c'est ça, la vraie technicité. Et je pense aussi ce qui fait l'effet waouh quand on amène ça sur table.
Ouais, parce que c'est très beau quand on la découpe.
Ouais.
En tout cas, vous avez dit plein de choses déjà en l'espèce de 2 minutes. La croûte, le feuilletage, hein, c'est un type de croûte déjà qu'on va utiliser. Cette pâte, elle est née comment? Et même cette technique?
Je sais que moi, je me suis renseigné un petit peu, et même c'est en fait nos clients chez Groot qui nous renseignent. Donc ça, c'est originaire du Moyen-Âge, hein. Donc les tourtes, à l'époque, ils utilisaient cette pâte pour conserver donc la viande ou les mets qui étaient à l'intérieur de la pâte, et ils ne mangeaient pas la pâte, en fait. Donc c'était un moyen de conservation au Moyen-Âge, qui après s'est développé au fur et à mesure. Et je pense, voilà, au fur et à mesure, ils se sont dit, ben, pourquoi pas manger du coup la pâte avec la viande qui est à l'intérieur. Et donc de base, c'est un moyen de conservation.
D'avoir une osmose entre la pâte et ce qu'elle contient. Et ouais. Alors la pâte, justement.
La pâte, principalement donc sur les pitiviers, on utilise une pâte qui est feuilletée. Donc une pâte qui va être très beurrée, légère et qui va permettre de croustiller. Mais aussi, il y a plusieurs écoles. On a des pâtes à tourte, pâtes à paille. Voilà, pâtes à paille plutôt en Angleterre, où là, ça va être une pâte qui est plus...
Donc les pâtes anglaises, telles que vous les nommez dans votre livre.
C'est ça, les pâtes anglaises, en fait, ça va être des pâtes qui vont être plus solides.
Ouais. Plus épaisses peut-être.
Plus épaisses, plus... un petit peu, en fait, plus présentes dans la tourte ou dans la paille qu'une pâte feuilletée qui, elle, va plus s'effacer. À l'avantage donc de ces garnitures.
L'histoire raconte que c'est Brillat Cervérin, le roi des gastronomes, qui a inventé au 19e siècle ce monument de la gastronomie, en tout cas qu'il a remis au jour du 19e siècle, un Graal pour les charcutiers, dont le nom est rigolo parce que les charcutiers, c'est ceux qui cuisaient la viande et ils travaillaient avec des pâtissiers qui s'occupaient donc de la pâte. Et donc, Brillat Cervérin, en hommage à sa mère, a donc créé un oreiller. Un pâté en croûte énorme qui s'appelle...
L'oreiller de la belle aurore.
Absolument. Autre monument à Lyon, cette fois, c'est Georges Raynon qui nous raconte.
Aurore était le nom de sa mère, qui était une très belle femme, et il avait dédié le nom de ce pâté à sa mère. Voilà. En fait, il y en avait 3 pâtés. Mais le plus prestigieux des 3 qu'il avait imaginé, c'était l'oreiller de la belle aurore. Voilà. Mon père, lui, dans les années 50, donc vous voyez, à la maison Raynon, ça fait quand même 60 ans qu'on en fait. Ouais. Dans les années 50, il s'est mis à en faire un. Bon, et puis il a eu un succès retentissant, il s'est vendu très rapidement, il s'est dit l'année d'après il faudra en faire au moins 2, il en a fait 2, il en a fait 3, et puis on est arrivé maintenant à en faire 34.
34, et c'était il y a un moment. Vous connaissez l'oreiller de la Belle Aurore?
Oui, l'oreiller de la Belle Aurore, c'est vraiment un monument. Quand même
dans ses dimensions, ne serait-ce que...
Dans la gastronomie. C'est là où on va retrouver comme 34 viandes. Moi, je pensais que c'était plutôt une quinzaine. J'ai eu la chance d'en faire un dans un autre établissement où j'ai bossé, au bistrot, donc au Café Brunet.
C'est le bistrot
de Laurent Petit. Saint,
c'est Laurent ça. Petit,
et mon ancien chef, Maximilien Mosba, il était alsacien et lui, il adorait en fait, du coup, tout ce travail de la charcuterie. Moi, j'avais amené justement le pitivier dans ce restaurant. Et lui occupait aussi donc le poste des entrées. Il s'amusait avec l'oreiller de la belle aurore, des saucissons de Colvert, toutes ces choses-là. Et c'est là où j'ai découvert tout ça. C'est un mec qui est fabuleux. Et il y a le fameux oreiller de la belle aurore de Monsieur Véro aussi à Paris, qui est quand même très connu.
Qui se fait chaque année, évidemment, où il y a un grand moment.
C'est ça, se préparer. D'ailleurs acheté ça.
Donc, hormis cet oreiller, vous avez parlé de l'Alsace à l'instant.
L'Alsace, tradition. La tourte au Riesling, c'est quand même un vrai empreinte de la gastronomie alsacienne. Il y a beaucoup d'Alsaciens aussi qui viennent au restaurant. En fait, je ne saurais pas dire d'où vient vraiment la tourte, de quelle région de France. Ça, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. On ne sait pas trop. C'est vrai que dans chaque région, je pense que ça a sa tourte. En Auvergne, c'est vrai, on a le pâté auvergnat.
Ce qui est rigolo avec le pâté, c'est justement que à l'origine c'était un pâté qui avait une croûte. Et puis au cours des siècles, il a perdu sa croûte. Pourtant, elle est intéressante cette croûte. Vous essayez de vous la valoriser, elle a un goût particulier?
Alors, j'aromatise jamais moi le goût des croûtes.
Mais c'est possible?
C'est possible, oui. Après, j'en ai jamais trop vu, parce que je pense que ça s'efface quand même en cuisson. Ce qu'on peut faire, par contre, après on peut s'amuser à la colorer de certaines façons, comme on le voit souvent sur les championnats de pâté en croûte ou autre, où il y a des designs, des dessins. Mais c'est vrai, même j'ai eu la chance d'être jury de championnat du monde de pâté en croûte de montagne à Megève, et on avait dégusté beaucoup de pâté en croûte, et jamais aromatisé la croûte. Je pense que c'est quand même... comme la gelée ou autre, c'est quand même des éléments où on va respecter la tradition et on ne peut pas tout faire aussi, tout et n'importe quoi, avec des traditions culinaires comme
le
ça.
Le championnat du monde de pâté en croûte qui se déroule donc lundi.
C'est hein ça.
On
c'est
est
ça.
Totalement dans l'actualité.
J'ai d'ailleurs un collègue qui est en finale.
Avec beaucoup de nationalités étrangères. Ouais. Les Japonais sont très
forts. Ouais,
j'ai
très vu fort.
Qu'il y avait un Norvégien cette année également.
Ouais, les Norvégiens, ils sont connus quand même pour le Bocuse d'Or aussi. Donc c'est de très grands techniciens. Les Japonais aussi, ils ont tout à fait leur place ici. Mmh.
Et le jus et la pâte. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une osmose qui puisse se créer, est-ce que c'est une osmose réelle? Est-ce que du coup la pâte prend le goût du contenu, je veux dire?
Oui, il y a vraiment, c'est plutôt du coup la garniture qui va donner le goût à la pâte que le contraire. Mais oui, il y a une vraie transmission des saveurs. Ça va d'ailleurs, la garniture va toujours un tout petit peu humidifier cette pâte feuilletée, ce qui va permettre d'avoir un côté croustillant, fondant entre guillemets entre les deux. Et oui, il y a une vraie osmose.
C'est un peu l'humidité la clé.
L'humidité, c'est la clé de la réussite de la tourte. Autant dans le bon que dans le mauvais sens.
Bon, tarte-tourte, la différence c'est...
Bah, c'est recouvert en fait.
Avec ou sans couvercle.
Ouais, voilà, c'est ça.
On est d'accord. Puis on a plein de croûtes. Enfin, on découvre dans votre livre qu'il y a, outre la pâte qu'on connaît, la pâte feuilletée, les pâtes brisées, enfin la pâte, il y a la croûte en sel,
C'est ça.
C'est incroyable en fait.
Ouais, en fait, le but c'était vraiment de traiter le sujet dans sa globalité. C'est qu'on entend toujours les tourtes et tout ça, on pense à la pâte feuilletée, mais c'est qu'il y a plein de différents types de croûtes et j'ai voulu aussi en amener des choses qu'on voit pas forcément, des croûtes de cornflakes au final, des croûtes de riz. La pâte à sel, qui est même plus connue aussi en gastronomie. Mmh. Et après, la croûte de sel. C'est vraiment... Il y a aussi de croûtes de caramel. En fait, tout ce qui craque au final et qui va envelopper. Et c'est une cuisson qui est quand même fabuleuse parce que on s'en fait souvent un monde de cuisiner les choses en croûte. Mais au final, quand on va faire une pintade en croûte de sel, je pense que c'est une des cuissons les plus faciles à réaliser parce qu'on ne va pas dessécher notre volaille. Elle va être assaisonnée à cœur. Donc ça permet de réussir plus facilement les plats qu'on a l'habitude de faire à la maison.
Pintade, croûte de sel et riz de jonjon. Je pense que c'est une bonne recette.
J'ai demandé pardon solennel, faute en centre. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres, tout le monde le répète après. Je me mélange pas, là c'est plein de faux. Tout bien là comme il faut. Ils aiment pas être solo, ça va avec. Rien de sensationnel. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'ennuient. Ça va tip-top, je fais comme une gift-box. Bébé va faire des bruits. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'ennuient. Ça va tip-top, je fais comme une gift-box. Bébé va faire des bruits. Y'a eu trop de larmes là, j'ai gâté le make-up. Je la vois la vie, la vraie. Du moche, du sale, du joli et du fucked up. Et Dieu sait après. Papa est dans la lune, maman sous la pierre. Et moi je suis perdu. Je joue plus de guitare, non je fais des prières. Tant je me rappelle plus. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une gift-box. Bébé va faire des bruits. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une gift-box. Bébé va faire des bruits.
Rien de sensationnel, Mira dans Le Goût du Monde, on adore sa voix. Merci à l'équipe de la playlist de RFI de nous avoir glissé dans les oreilles cette merveille. Sensationnelle quand même, comme notre sujet du jour, je l'avoue, les croûtes qui enveloppent des merveilles comestibles, œuvres d'art à manger, croustillantes à l'extérieur, moelleux fondant, des mets en croûte dont notre invité Hugo Ribollet et sa complice ont fait une version gastro-street, un défi, un pari. Pendant longtemps, ça a été un peu abandonné, puis retrouvé. C'est osé, quand même, de dire, à partir de demain, on vous offre des pitiviers à emporter, comme ça, en street food. Hop, hop, ça s'est passé comment ?
Ben, c'est vrai qu'à la sortie de Top Chef avec Alban, elle était venue me chercher sur... en fait, chacun de nous deux voulait créer un concept de street food qui puisse se développer. Et elle m'a glissé l'idée, si on bossait autour des tourtes, en fait, les
qui pitiviers. Qui vous avez d'ailleurs rendu justice pendant toute la saison. Vous aviez fait deux plats en croûte très
beaux. Alban avait gagné, du coup, sur une épreuve des Miroirs de France autour des tourtes. Et moi, j'avais fait une tourte en demi-finale aussi avec un faisant entier.
Ah non, faisant.
Ouais, un faisant entier. Et on s'est dit que c'est une bonne idée parce que ça rallie aussi quand même nos deux passions. La cuisine gastronomique, c'est un produit qui peut se faire à toutes les saisons. On peut adapter la garniture à l'intérieur. Et ça montre aussi notre savoir-faire de cuisinier. On n'est pas là à faire des burgers. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et là, on s'est dit bingo, on a bossé sur le sujet. Ce n'était pas une mince affaire. Et ça va bientôt faire du coup un an que c'est ouvert. Et c'est vrai que pour former les équipes ou autres, c'était un vrai défi.
Et sur TikTok, les réseaux sociaux, ça s'est passé comment ?
Alors, ça a tout de suite cartonné dès l'ouverture.
Ouais, c'est extrêmement visuel.
Ouais, c'est très visuel. Ça, je pense le fait que ce soit novateur aussi, mais que ça reprend des codes de la cuisine traditionnelle. On voit bien avec l'essor de tous les bouillons. Ça, c'est tout qui reprenne, en fait, les grands classiques français. Il n'y a jamais eu autant de monde à Boffinger pour manger une choucroute sur Paris. Je pense que c'est le moment qui a fait que le temps aussi et le produit plus Top Chef, c'était un amas de tout ça. Et une très bonne com aussi, en fait, qui a été faite en amont. Et ça a tout de suite primé.
Et un très 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 bon produit quand même.
Oui, voilà. Et je pense qu'il y avait aussi le produit. On n'a rien sans rien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus goûter. Très très bon retour, c'est vrai que ça c'est essentiel.
Alors c'est étonnant parce que dans votre livre Tout en croûte, on se dit très bien, on va avoir des pâtes et des pâtes, mais il y a aussi, attention, des sauces et des bouillons, dont un petit bouillon de légumes comme un jus de viande. Alors ça j'aime beaucoup, des sauces et des soupes. Une soupe en croûte, à commencer par celle peut-être d'un certain Paul Bocuse,
oui.
Pour le président Valéry Giscard d'Estaing, aux truffes et en croûte.
Bon alors voilà, soupe aux truffes, la créée en 1975. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des truffes, du foie gras, une matignon de légumes, du mec de bœuf, un consommé de bœuf double et du feuilletage. Alors voilà, donc on met la matignon, le foie gras, le maigre de bœuf, on râpe les truffes. On met à peu près 20 à 25 grammes de truffes. Maintenant on met le consommé de bœuf, un petit peu de noyer pas parce que c'est très bon. Et là on met le feuilletage. Dessus, je mets dans le four, on va débarrasser un peu, on ménage, voilà, et voilà, la soupe aux truffes. Quand le président a eu ça devant lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, il me dit, monsieur, comment ça se mange ? Bien, président, je lui dis, on casse sa croûte. Voilà, ça a été formidable, parce que finalement, cette soupe aux truffes, on l'a fait pour tous les présidents, les rois, c'est-à-dire, on l'avait fait pour, je ne me rappelle plus, Kennedy, on l'avait fait pour... la reine Elisabeth, je me rappelle, on a fait le tour du monde avec cette soupe aux truffes.
Soupe que vous avez réinterprétée, je crois, Hugo. Si j'en crois Instagram, en tout cas.
Oui, non, en vrai, vraiment, moi, je suis admiratif de cette soupe VGE, Valéry Giscard d'Estaing. J'ai eu la chance de la goûter aussi au restaurant Paul Bocuse. Et c'est vrai que je m'en suis inspiré parce que c'est quelque chose qui est fabuleux. Il y a le côté soupe qu'on connaît tous et il y a le côté réconfortant. On va ajouter une texture. Qui est la pâte au-dessus et c'est en fait deux plats en un et aussi je pense que ça va profiter à la cuisson, c'est quelque chose qui est un petit peu étouffé même si on va cuire très peu quand même la pâte feuilletée avec la soupe à l'intérieur mais c'est une version que j'ai revisitée avec un oignon.
Oui c'est ça, tout le monde n'a pas de truffe en revanche, c'est des oignons.
Un oignon qu'on va justement lutter de pâte feuilletée et là dans mon
lutter,
livre aussi.
Oh là là, le cuisinier parle, attention, ouais. Vocabulaire.
Donc lutter ça veut dire on va apposer un disque de pâte feuilletée avec une petite dorure sur le bord donc de notre oignon ou de la soupe ou autre, ça permet d'avoir quelque chose d'hermétique et c'est en fait recouvrir donc un récipient d'une pâte pour effectuer sa cuisson.
On a cette idée que c'est très long, Mais dans votre livre, on découvre donc qu'il y a des croûtes qui sont faciles, par exemple la croûte de cornflakes.
Oui, oui, oui.
Est-ce que ce sont des croûtes de riz?
Oui, oui, les croûtes de riz, voilà.
Mais qui ressemblent à des boulettes. Alors, où est la boulette, où est la croûte? J'ai envie de vous poser la question.
Ouais, ouais.
J'ai trouvé ça un peu facile.
Ouais, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai que dans le livre, j'ai voulu aussi quand même transmettre des recettes qui sont accessibles à tout le monde. C'était quand même une volonté. C'est des recettes, voilà, il y a les idées et la construction d'un chef, mais adapté aussi à tout le monde, que tout le monde puisse réaliser ça. Et c'est vrai que les croûtes de riz, voilà, c'est des recettes qui sont quand même assez simples. On aurait pu très bien faire comme Jean-François Piège, je sais qu'il fait des cuissons de volaille tout en croûte de riz. Voilà, il va immerger toute une volaille avec du riz.
Enfin,
Ça fait un petit peu... et là, c'est vrai que c'est des versions un petit peu plus simples où justement, je me suis amusé à dire, voilà, le riz qui est croustillant, ça procure une croûte et on va faire des croûtes de riz.
Moi, je me suis amusée au tout début de cette émission, vous avez parlé de pies, et on a parlé de pâte anglaise. C'est dire si cette pâte, elle a voyagé. Alors, j'ai réfléchi deux minutes et j'ai pensé Koulibiak. Alors, on est en Russie. J'ai pensé meat pies comme au Nigeria, empanadas, des briochets, aux légumes, à la viande. Dans toutes les... En fait, il y a le monde qui se décline en pâte.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, international et qui peut s'adapter à beaucoup de plats. Dans chaque pays, je pense qu'il y a de la farine, des œufs, de l'eau, du sel.
Et même pas besoin d'avoir un four, parce que vous faites certaines croûtes à la poêle.
Oui, oui, oui. Tu peux faire donc quoi, croûte de cornflakes ou autre. C'est vrai que ça peut se faire à la poêle. Donc c'est un sujet qui est abordable sur plein de plats du monde entier. Et quand on commence à s'y jeter. Je pense que tu adores ce sujet. Tu découvres qu'en fait, dans tout le monde entier, on a des plats en croûte.
Ouais. Au Sénégal aussi, vous saviez ça?
Non.
Les pastels sénégalais.
Ah, ça, je connais pas.
Une institution assez récente avec la cuisinière et autrice Aïssa Toumbaye. La revue d'un petit pâté en croûte à l'histoire riche et métissée.
Ça fait partie de la cuisine moderne sénégalaise. Le mot le montre. Pastel, ça vient du portugais. Hein. C'est le pluriel de pastéche, qui veut dire pâtisserie. Voilà. Et on le voit, hein, parce que souvent les gens disent oui, ça ressemble un peu aux empanadas, etc. Oui. Et d'ailleurs, dans mon premier livre, je disais oui que la cuisine est le reflet en fait de la société, de son histoire. Si on prend la cuisine sénégalaise, n'importe quel plat qu'on prend, et surtout les plats modernes, on va retrouver des influences parce que ça fait partie intégrante de notre histoire. Le Portugal a occupé le Sénégal à un moment de son histoire, je crois vers les années 1600. On va retrouver certaines notes du Portugal, parfois dans notre cuisine. Ça va être la même chose pour tous les peuples qui ont pu se mélanger avec le Sénégal. On va retrouver le Liban aussi. On va retrouver même le Vietnam. Les tirailleurs sont allés au Vietnam pour faire la guerre. Ils sont revenus avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, ils se sont intégrés à la société sénégalaise. Et donc, du coup, on retrouve un peu d'influence vietnamienne dans la cuisine sénégalaise. Dire à un Sénégalais que le nem, c'est pas sénégalais, il va être choqué alors que c'est pas de chez nous. Pareil, là, je propose une recette de pastel qu'on appelle pain chinois. Je ne me demandais pas pourquoi. Ça aurait pu s'appeler pain vietnamien parce que c'est un mélange de pastel et de nem. Donc, c'est une farce de nem dans une pâte à pastel. Donc, on retrouve beaucoup de choses comme ça dans la cuisine sénégalaise. Et donc, voilà, les pastels, c'est une cuisine de rue qui, après, est devenue presque un plat de fête, mais on retrouve surtout ça dans la cuisine moderne. À Dakar ou dans d'autres villes, on va retrouver les mamans avec leurs tables, leurs étals. Et il y aura des pastels, des sauces qu'on va manger dans du pain. Ce qui peut parfois surprendre des personnes, de la pâte dans de la pâte. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé travailler les pâtes. J'ai beaucoup aimé réfléchir. Et je voulais une pâte qui est à la fois croustillante, c'est moelleux et croustillant en même temps, qui est assez gourmande et qui est facile à travailler.
Quand vous entendez ça?
Ouais, c'est vrai que c'est inspirant, quoi. On voyage. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà dit qu'il y avait, donc, en Thaïlande ou dans d'autres pays, ils faisaient ces petites brioches avec une farce au porc à l'intérieur. Et on voit qu'elle voyage même jusqu'au Sénégal et tout ça, et c'est ouf.
Vous vous rendez compte que depuis le début de cette émission, on n'a pas dit un mot de sucre encore.
Ouais, c'est vrai.
Ni de légumes. Pourtant, les légumes, dans les pitiviers, on peut les trouver, les légumes. Mm. Mais le sucre aussi, le sucre en...
Ben, les chaussons, oui, chaussons aux pommes, tout ça, oui. Mm. Les friands, toutes ces choses-là. En vrai, il y a une multitude de choses.
C'est infini, en fait, comme terrain de jeu.
Oui, c'est infini. On peut l'adapter autant au sucré qu'en salé. Et je pense aussi, on peut toujours faire ses recettes avec ce qu'on a sous la main. Ça, c'est important, avec des produits du quotidien. Et c'est là où chacun peut exprimer sa personnalité. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a autant de diversité de croûtes dans tout le monde entier. C'est que c'est un mets que tout le monde peut s'approprier.
C'est d'autant plus intéressant que vous avez dit avec ce qu'on a sous la main. C'est la naissance de la tielle à 7.
Les pêcheurs italiens, quand ils sont venus ici, c'était un métier dur, de pauvre. Et ce qui restait, c'est le poulpe. C'était le sous-produit d'avant, on va dire. C'était le truc que personne ne voulait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le faisaient bouillir. Après, ils allaient chercher la pâte au boulanger. Et à partir de là, on a eu la tielle. Quand on parle de la tielle, elle est faite au pouf. C'est la façon qu'on a d'appeler le poulpe à 7. C'est un poulpe, une pieuvre, mais c'est le pouf à 7, c'est le pouf.
Et voilà. À 7, c'est le poufre.
Ouais, ben moi, je connais quand même bien la tielle sétoise, parce que c'est vrai que j'ai de la famille, j'ai ma grand-mère qui avait un appartement au Gros-du-Roi, pas loin.
D'accord.
Donc, c'est vrai que j'ai connu depuis tout petit la tielle sétoise avec le poulpe, cette sauce un petit peu tomatée, légèrement relevée. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un monument français.
Là, c'est vous qui avez le sourire.
Ouais.
Merci beaucoup, Hugo.
Merci.
Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, des tourtes, des croûtes en hommage à quelqu'un?
Oui,
Bria Savarin l'a fait.
Oui.
Si on voulait faire des portraits de quelqu'un ou d'une région.
Je pense que oui, on peut prendre les éléments marqueurs identitaires d'une région, d'une personne ou quelque chose qu'il aime et les assembler dans une tourte, dans un chausson, dans quelque chose de feuilleté. On pourrait en fait s'amuser à faire des pailles ou autre à l'effigie de chaque région avec toutes les marqueurs. Si je prends l'Ardèche avec de la châtaigne, avec pourquoi pas mettre de la caillette à l'intérieur. On peut faire plein de choses.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup Hugo. Donc Tout en croûte est publié aux éditions Albin Michel. Il est clair, gourmand, facile et très pédagogue et instructif. On adore en somme. Groote la tourte, c'est dans le 2e arrondissement, rue Saint-Sauveur.
C'est ça.
Quel numéro déjà?
34.
Dans le 2e. À la carte en ce moment?
À la carte en ce moment, on a un petit vieux classique, farce cochon et beaufermier, en beurre et de choux, duxelle de champignons, filet de volaille jaune des Landes. Et le petit moment plaisir en ce moment, c'est quand même la tourte gourmande, pommes de terre, raclette IGP de Savoie, compotée d'oignons, vin jaune et saucisse de bœuf fumé de la maison de Bourdonnec.
Oh là là.
Ça, c'est un peu le best-seller du
moment. Ah oui, je veux bien le croire. Donc ça, sur la page de l'émission, vous n'aurez pas la recette de ce coup de cœur du moment, mais vous aurez glissé forcément une autre recette. Et puis des liens aussi pour découvrir les pastels et autres pailles du monde. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. À savourer quand vous le voulez en podcast avec l'appli Pio Radio de RFI ou bien votre appli préférée. Merci à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et puis à nous dire de quel plat, quel savoir-faire ou tradition vous aimeriez entendre parler à votre écoute. Et un clin d'œil à Juste Agbeko qui nous écoute depuis Lomé au Togo. Très bonne semaine à tous.
Et moi je suis perdu, je joue plus de guitare, non je fais des prières, tant je m'en rappelle plus. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok, c'est pas grave qu'il s'en aille. Ça va tip-top, je ferai comme une gift-box, bébé va faire tes bails. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok, c'est pas grave qu'il s'en aille. Je fais comme une gift box.